Pardon, aussi une qualité mathématique.
D'abord, d'ordre mathématique dans le sens ancien.
Oui, oui, oui.
D'abord, bien sûr. C'est pourquoi je vous dirais souvent, si on pose la question, on se pose la question, qu'est-ce que c'est la Kabbalah ? Une mystique ou une connaissance ? C'est premièrement une connaissance. C'est une connaissance telle qu'il y a une certaine attitude dite mystique. Hein ? Ce mot-là est lui aussi à une histoire. Ce qui en découle inévitablement, une ferveur qui en découle inévitablement. Mais premièrement, c'est une connaissance. Et ceux qui ont accès à ces moyens de connaissance ne peuvent pas se tromper. À moins que leur cerveau fonctionne mal.
Est-elle rationnelle ou suprarationnelle ?
Elle est...
Super-rationalisme ou quoi ?
Et je ne sais pas ce que vous entendez exactement dans cet adjectif, mais je dirais, il n'y a pas d'autre raison par rapport au sujet dont on traite. Vous comprenez ? Il y a une grande différence entre la notion de cohérence rationnelle et la notion de doctrine rationaliste. Une idée rationaliste, ça n'a rien à voir forcément avec le rationnel. Tout discours a sa cohérence. Il y a un discours rationaliste qui se prétend rationnel. Mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous entendez des explications sur la révélation, sur les textes de la révélation, par des gens qui se prétendent rationalistes, c'est toujours compliqué, mais c'est compliqué. Et d'ailleurs, le point de vue de M. Untel, c'est toujours compliqué. Parce que M. Untel est toujours compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais lorsqu'on parle au nom de la tradition, c'est toujours simple. Et c'est le signe. Parce que c'est la vérité pour la collectivité. C'est la vérité pour l'universel. Alors bien sûr, il y a un style personnel. Le Hari n'a pas le même style que le Gaon. Le Gaon n'a pas le même style que le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï n'a pas le même style que le Ramak. C'est leur génie propre. Mais ce qu'ils disent, c'est la même chose. Parce que c'est formulé à l'échelle de l'impersonnel. La parole prophétique est universelle, c'est la parole philosophique et subjective. Chaque philosophe vous parle le monde dans sa grammaire propre. Il faut être Descartes pour être cartésien. Les autres, c'est le glosateur de Descartes. Il faut être Kant pour être kantien, il y en a un seul. Il faut être Hegel pour être hegelien, il y en a un seul. Vous comprenez ? Donc, tous les prophètes parlent de la même chose. Parlent de la même chose, c'est universel, c'est Israël, c'est un peuple, c'est une nation, c'est une humanité. Et l'unanime est anonyme, Stantora. Tandis qu'il faudra dire l'idée d'idée chez Hegel. Et ça n'a rien à voir avec l'idée d'idée chez Kant. Ou avec l'idée d'idée chez etc. Vous avez compris la grande différence. Bien, alors j'ai donné en tout cas à vous signaler cela, malgré les apparences. D'où viennent les apparences, c'est que dans son énumération, Maïmonide, mais le Kohar Sikhli est en cinquième position. Alors on pourrait croire qu'il le privilégie par rapport aux autres. Non, mais il montre que le Ani du Ani n'est dans le Sechel que si le Ratzon intervient. Là, c'est clair. Bien, alors je vous rappelle deux choses. Nous avons cours ici à 6h30. Là où nous étions arrêtés dans ce paragraphe, le Rabbanan, le Varim, le Varim, la Darche. Et à peu près, nous sommes au milieu de la deuxième page. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin de la première discussion concernant la dialectique du fondement des deux thèses de Rabbi Houda et des Rabbis, nous avons vu donc l'argumentation principale de Rabbi, c'est que. Il y a Rehaï, ça signifie Beravagatan Yehu. Alors je traduis, le fait que le troisième verset de la paracha de Kriyat Shema dit Vehayu advarim haele asher anochim etzavecha ayom al levavecha, Vehayu, c'est un commandement qui implique que la réception de ces paroles doit être essentiellement comme elle a été depuis le seront ces paroles. Vous rappelez de cela. Et donc, ceci se pose, fonde la proposition Kriyat Shema Kirtava. Tandis que pour les Hachamim, il y a écrit Shema, et ça implique Bechol Lashon,
fais attention. Hein. Et la thèse de Framim, c'est
de Rolach.
C'est clair. Bon. Alors donc, la Gemara nous a montré comment chacune des deux positions rend compte de l'argument de la position opposée. Et en fin de compte, on comprend par différents indices très clairement que les Chachamim sont donc d'accord que la thèse de Rabbi est la thèse fondamentale, mais il faut décider de la halakha pour la nouvelle occurrence historique de à laquelle j'ai fait allusion dans l'explication. Un de ces indices, je vous rappelle en tout cas deux. Dans la position des Chachamim, il faut aussi intégrer le principe de Shelo Yikra le Mafrea. Et là, inévitablement, il y a une difficulté. Si on s'en tient à ce que la notion de l'ordre des propositions du discours porte sur les propositions globales, par exemple, l'ordre des chapitres, l'ordre des grands points de l'itinéraire spirituel de cette Kavana, par exemple, d'abord Kabbalat Hol Malchut Shamayim et après Kabbalat Hol Mitzvot, d'abord Hol Mitzvot Shenohagot Ben Bayom Ben Balayla et après les Mitzvot Shenohagot Balayla, ça, la fin de la Mishnah, nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu ce principe. Enfin, l'ordre, si vous voulez, des prakim, des brachot et des parashiot, tel que nous l'avons dans le Sidour, et peut-être nous aurons à revenir sur ce point, il y a là une pédagogie de la transmission de ce message que la tradition a donné dans un ordre très précis. J'en ai parlé très, très brièvement. C'est effectivement l'ordre orthodoxe, si vous voulez. D'abord, ce que dit la première bracha, Yotzer Ameorot. Ensuite, ce que dit la deuxième bracha, Ohevet Amo Israël. Ensuite, Shema Israël, la première paracha. Après, Vayayim Shamoa. Après, Vayomer. Après, Emet Veyativ. Et là, ça va être, vous voyez, je vous citerai un mot important du grand rabbin Liber, vous êtes dans les brachas. Vous avez entendu parler du grand rabbin Liber? Non, laissez Liber là où il est. Baruch Haba, puisqu'il est venu, mais c'est pas lui, je parle. Buber, c'est autre chose. C'est le grand rabbin Liber qui était le directeur de l'école rabbinique avant la guerre mondiale.
Il l'a connu.
C'est ça ? Vous l'avez connu ? Oui. Et alors il disait une fois quelque chose d'extrêmement important. Et celui qui comprend le Sidour n'a pas besoin de faire la théologie. Parce que l'essentiel de la théologie du judaïsme, c'est dans le Sidour. Vous comprenez pourquoi par cet exemple. Mais enfin, l'expérience pédagogique montre qu'il peut y avoir, suivant les chitotes, comment on traduira chitotes, d'enseignement chitotes, plus que méthode, système, tendance, bon, vous comprenez ce que ça veut dire les chitotes, il peut y avoir d'autres stratégies pédagogiques. Oui. Et en tout cas, éviter le terme de secte. En général, du point de vue de ces choses-là, nous sommes des insectes. Il peut y avoir donc d'autres stratégies pédagogiques. Par exemple, les écoles du Moussar, qui mèneront à la Torah par le biais de la sensibilité morale. Mais le Moussar, c'est une expérience de sensibilité universelle, qui n'est pas a priori, c'est le derecher. Qui n'est pas a priori sous-tendu par une pensée traditionnelle. Il peut y avoir, et c'est parfois dangereux, des philosophies morales extrêmement étrangères qui ont été celles du pays où on se trouvait, qui véhiculent telle ou telle approche par le moussard de la Torah. Où est le danger? C'est que ça risque de concerner que tel ou tel tempérament. Vous comprenez? Mais ce qu'une tradition vise, c'est toujours l'approche pour l'universel, l'approche pour le plus grand nombre. La halakha, c'est pour la communauté. Vous comprenez ce que je veux dire? La gravité du phénomène des sectes, c'est cela. C'est mettre comme écran entre la Torah et les Juifs la porte étroite, comme disait, je ne sais plus qui, non, ne l'appelez pas, la porte étroite d'une équation personnelle extrêmement précise et qui risque de repousser, plus que de laisser en dehors d'ailleurs, ceux qui auraient un tempérament différent. Vous comprenez? Jamais une tradition ne confie son message à une idéologie particulière. En général, les grands d'Israël qui ont à dialoguer avec leur temps
choisissent le langage le plus universel de ce temps. Mais comme ce n'est que le langage de ce temps-là, alors très rapidement il devient aussi extrêmement trop spécifique. C'est le problème de Maïmonide, qui a choisi effectivement le langage le plus universel de son temps, mais qui très rapidement, pour notre temps, devient un langage extrêmement spécifique. Il faut être spécialiste d'Aristote pour arriver à comprendre que lorsque le Rambam, lorsque Maïmonide emploie le langage d'Aristote, il ne parle pas comme Aristote. Vous comprenez ? Et il y a malheureusement trop d'étudiants qui étudient Aristote chez Maïmonide. C'est une inconséquence. On étudie Aristote chez Aristote. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et à force de vouloir étudier Aristote chez Maïmonide, on croit que Maïmonide est aristotélicien. Et ça arrive à des grands professeurs. Vous savez, c'est ces grands professeurs. C'est des petits étudiants qui ont vieilli. Et qui ont acheté beaucoup de livres. On se demande avec quoi, mon père. Et par contre, le langage de Judas Lévi reste universel pour la tradition juive parce qu'il n'a pas du tout choisi, quoi qu'on dirait des historiens de Judas Lévi, peu importe, parce qu'il n'a pas du tout choisi un véhicule spécifique pour ce qu'il avait à dire. Lorsqu'il cite la thèse du philosophe qu'il combat, il la cite avec énormément de générosité intellectuelle. Ce philosophe cité par Judas Lévi finit par être presque convaincant jusqu'à ce qu'on entende ce que Judas Lévi a lui répondre. Mais il garde le langage intérieur spécifique de la tradition. Il y a un indice que M. Gordon nous avait souvent répété. Aucune communauté ne met comme kavana de sa prière la philosophie du Moreh Nebuchim. Ça n'existe plus, vous comprenez ? Tandis que dans toutes les communautés, on prie avec la kavana du Kuzari. Vous comprenez quelle est la différence ? Est-ce que c'est bien clair ? Bon. Eh bien, de quoi nous parlions avant de citer ce point des différentes chutotes ? Non, qu'est-ce qui nous a amené là ? Quand je vous ai parlé des... Oui, non, c'est l'ordre des propositions. Je vais un peu parler de cela, si vous avez en tout cas en tête le contenu des brachot et des parashiot, c'est-à-dire l'introduction au Kriyat Shema qui nous est donnée par les brachot, c'est premièrement une découverte de la notion d'unité de Dieu en tant que créateur, que celui qui a créé la lumière, c'est celui qui a créé l'obscurité. Et c'est relié d'ailleurs un peu à notre sujet général. Dans ce problème, nous sommes reliés au Dieu unique. Et puis que ce Dieu unique, dont nous avons découvert l'évidence au niveau métaphysique, si j'ose dire, je dirais plutôt ontologique, c'est-à-dire en tant que créateur, intervient dans l'histoire, dans une alliance particulière avec Israël, c'est la deuxième bracha, Ahavat Olam Ahavtanu. Et alors, lorsque l'on a intégré ces deux expériences dans cet ordre, que le Créateur unique lui-même intervient dans l'histoire, en particulier à travers l'histoire d'Israël, alors on arrive à la Kriyat Shema à proprement parler, Kabbalat Olmachut Shamayim. C'est bien précis. Bon, si certains d'entre vous sont au séminaire en août à Mayanot, nous avons ce sujet du monothéisme en général, nous aurons l'occasion d'approfondir dans d'autres dimensions ce principe de l'itinéraire de la Kavana, de la première bracha, la deuxième bracha, la première bracha du Kachma. Et que cette Kavana ne peut pas être interrompue. Et qu'est-ce que ça veut dire interrompre ? Ça veut dire ne serait-ce que dire un mot autre à l'intérieur du discours. De cela, nous parlerons après. Mais ici apparaît le principe « Shelo ikra le mafrea ». Si l'ordre des propositions a changé, la vérité du discours aura changé. C'est clair ? Bon. Attendez une minute, je rappelle ce principe. Essayez de faire l'effort de laisser des paragraphes. Ben apratim. Ici, il y a une difficulté pour la position des Chachamim. Pourquoi ? Parce que À la rigueur, si nous admettons que cet ordre, qu'on ne doit pas changer, c'est l'ordre global, des propositions globales, on peut mettre dans une autre langue et garder l'ordre des idées. Mais dès qu'on aborde le problème en détail, qu'on ne doit pas changer l'ordre des versets à l'intérieur du chapitre, qu'on ne doit pas changer l'ordre des mots à l'intérieur du verset, alors on s'aperçoit que pratiquement la halakha des hachamim ici se heurte à une difficulté. Inévitablement, dans une autre langue, l'ordre des données du discours sera différent. Donc il y a une difficulté à penser la halakha des hachamim ici. C'est donc un aveu que les hachamim en réalité pensent que c'est bien Rabbi qui a raison, mais il doit donner une disposition. Est-ce que c'est clair? Alors c'est pourquoi la tradition s'est habituée à bien que la halakha est claire, c'est que pendant tout ce temps d'époque qui va de Hurban Bayit Rishon jusqu'à Biat HaMashiach, la halakha est que Kabbalat Malchut Shamayim c'est Bechol Lashon Shata Shomea. La halakha est selon les Chachamim. Mais la tradition s'est habituée à ce que on va quand même demander que ça soit dit en hébreu, même si c'est pensé dans une autre langue. Je vous rappelle encore, dans toutes les communautés, il y avait cela. Il y avait des petits sidurim pour les Talmudet Torah, et où on nous donnait la traduction littérale mot par mot. Vous avez dû voir ça en Alsace, certainement. Eh bien voilà, vous en avez un là. Vous voyez ? Et alors, voilà, exactement ça. C'était de votre Talmud Torah ?
Non, c'est de
le
Talmud Torah
de
mon grand-père, mon mari.
Ça va vite. Et alors voilà, vous voyez, il y avait les mots dans l'ordre hébreu, et puis en dessous, entre deux tirés chaque fois, la traduction française de ce mot-là. Alors il arrivait qu'on apprenait par cœur la traduction chez nous, c'était en judéo-arabe, et il en sortait un discours absolument incompréhensible. Bien. Deuxième indice, et après je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Deuxième indice, mais beaucoup plus important, c'est que si vous refaites le raisonnement dans la dialectique, en fin de compte, le dernier mot appartient à Rabbi. Parce que lui aussi va intégrer ce principe de Shelo Yikra Lemafrea. C'est-à-dire que le discours va être dit dans son ordre, bien qu'en Lashon HaKodesh. C'était le Ve'ayu pour les Hachamim. Okay? Le Ve'ayu pour les Hachamim, c'est Shelo Yikra Lemafrea. Tandis que, alors on demande à Rabbi qu'est-ce qu'il va faire de ce principe, Shelo Yikra Lemafrea. Alors il dira Devarim HaDevarim. Vous rappelez, c'est là où on est allé. C'est-à-dire le texte aurait pu se borner à porter Ve'ayu Devarim Ele Asher Anochim et Tzavecha. Ceux qui entendent l'hébreu, vous voyez qu'il y a absolument correspondance de sens entre les deux expressions, Ve'ayu ha-dvarim ha-ele, ou bien Ve'ayu dvarim ele. Or, Rabbi dira, si la Torah a jugé nécessaire d'introduire ce he, Ve'ayu ha-dvarim ha-ele, qui est désignatif, démonstratif, c'est pour indiquer ce principe de l'ordre. La différence entre ces paroles et celles qui sont ces paroles-là, c'est le fait qu'elles doivent être dans leur ordre. Alors on demande tout de suite au Chachamim, mais vous, ce Hadvarim, Hadvarim, qu'est-ce que vous en faites? Ils disent, nous, non, on n'en fait rien. Pourquoi? Je vous avais posé la question, j'ai même donné la réponse, je pense. Qu'est-ce que auraient à dire les Chachamim pour donner un sens dans leur système sur ce Dvarim, Hadvarim? Qu'est-ce qu'ils auraient à dire? Une seule chose. Que ça veut dire? En lâchant d'un côté. Okay? Or, comme Dafka, ils ne peuvent pas dire ça, alors ils se taisent. Donc, mais c'est l'aveu que c'est Rabbi qui a raison. C'est clair? Bon. Et donc vous avez bien compris qu'il y avait un facteur extérieur important qui est qu'en ce temps-là, il fallait non pas donner la tolérance, l'autorisation, mais il fallait instituer qu'à partir de ce moment-là où commence la grande dispersion, alors la halakha est que c'est Bechol Lashon. C'est clair? Et il est tout à fait normal que ce soit Rabbi qui demande Ben Lashon HaKodesh, parce qu'il est le Nassi du Sanhedrin, est tout à fait normal que l'ensemble des Chachamim demande Bechol Lashon, parce qu'ils sont les représentants de l'universel humain. C'est clair. Bien, vous aviez quelque chose à demander à voix haute. Une minute. N'allez pas trop vite parce que je voudrais simplement préciser le vocabulaire. C'est
bien sûr, et pas seulement cela. Toutes les dualités. Bon, mais si vous dites sainteté d'un côté, il ne faut pas dire péché de l'autre. Ça ne se correspond pas. Non, mais justement, il n'y a pas opposition entre. Si on est dans le couple que vous indiquez, il n'y a pas opposition entre sainteté et péché. Ce qui s'oppose à sainteté, ce n'est pas péché. Faites bien attention. Vous voyez, votre langage est trop approximatif. Je voulais simplement préciser cela.
Je crois qu'il y
avait
une analogie entre la
lumière
de l'obscurité, et s'il
n'y
avait pas une analogie avec le péché, la
lumière. Ah ouais. Non, mais voilà ce que je veux dire. C'est que vous avez raison de dire qu'il y a une analogie avec toutes les dualités. Oui, mais ce qui s'oppose à sainteté, c'est une autre notion que le péché. Et ce qui s'oppose au péché, c'est une autre notion que la sainteté. Ce serait un autre sujet, simplement je voulais recoder le vocabulaire. Vous comprenez? Et puis, je vous dirais un conseil de méthode, évitez ce mot de péché. À moins, il y a un mot plus noble, c'est la faute. Parce que ce mot de péché en français véhicule des choses un peu pas claires. Et à moins que vous ne traduisiez par coquetterie étymologique, le mot de pécha. Et d'où vient d'ailleurs le mot péché? Mais c'est les chrétiens qui emploient ces choses-là. Oui. Vous comprenez, vous êtes d'origine nord-africaine? Oui. Ça m'étonne pas. Moi aussi, d'ailleurs. C'était l'expression habituelle, héritée d'un français de je ne sais pas quel siècle et demi, qui consistait à dire c'est péché. Vous comprenez? Mais alors, c'était une récapitulation de catégories magiques. Vous comprenez? Évitez d'employer ce mot-là. Il y a en hébreu le mot pécha.
C'est grave.
Oui, mais qui se traduit étymologiquement par le mot péché en français. Mais en réalité, ce que vous voulez dire, c'est transgression d'un commandement de la loi. Seulement, dans ce mot, c'est péché, il y avait autre chose. Et au point que ça vous a mené à ériger cela en opposition à la sainteté. Alors faites bien attention à ça. Dites, si vous parlez français, encore un peu, dites la faute. Bon, ça c'est plus clair. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? En tout cas, ce que vous avez dit est exact. Et ça indique aussi la perspective de toutes les dualités. Alors je ne voudrais pas employer l'expression que le Dieu unique est au-delà du bien et du mal, parce que ça nous rappellerait le Nietzsche, et qui emploie cette expression dans un tout autre sens, mais enfin c'est bien la perspective.
Enfin, la chose originale, enfin,
d'abord c'était celui d'Ève. Écoutez, je ne peux vraiment pas vous répondre en une phrase. C'est un tout autre sujet. D'ailleurs, j'allais dire une blague, mais enfin, ça devait se passer à Genève, parce que c'est là que c'était la jeunesse, puisqu'elle était jeune. Eve. Mais c'est un tout autre sujet. Bon.
Je vous dis que. Vous avez dit que vous nous expliquerez, vous avez dit qu'on pouvait s'arrêter en spectre et en trémesse versive, non, que vous me direz pourquoi on...
Oui, ça nous le ferons encore aujourd'hui. Ah, ouais. Vous allez me... Tu me le rappelleras si jamais je... Ce qu'il faut en tout cas noter pour la lecture de la Mishnah, c'est que la Mishnah ne va autoriser à interrompre la Kavana que pour une catégorie bien précise. Dire shalom, le mot de shalom. Dire le mot de shalom, à qui on doit respect et ou pour qui il y a crainte. Et ceci est assez très bien expliqué d'ailleurs dans le commentaire du Rav Shenza, vous le trouvez vous-même, mais il y a une exception entre le dernier verset du Kriyat Shema, Hashem Elokechem, et le premier mot de la dernière bracha, Emet Veyatzi, il ne doit pas y avoir d'interruption, la Gemara se bat sur un verset de Jérémie. Qui implique la liaison de ces deux termes, ben elokechem ve'emet loyach. Entre la notion de Dieu et la notion de vérité,
on ne doit pas faire d'interruption, juste pour la paix, juste pour le mot de paix. Alors vous voyez à quel problème ça se réduit. Et ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire même lorsqu'il y aurait à rendre honneur et respect à son père et à son maître. Ça va jusque-là. C'est ça le... Bon. Et alors il s'agit bien de vérité, d'authenticité et pas de sincérité. Pour se relier à ce problème qui est très, très important. La sincérité ne suffit pas, sauf lorsque la sincérité porte sur des causes vraies. Comme dit la Sagesse des Nations, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bien. Alors, nous allons maintenant élargir ce sujet. Va faire irruption une question extrêmement profonde de la Gemara à ce sujet. Je vais essayer rapidement de vous indiquer l'articulation du processus des propositions de la Gemara elle-même. Alors, vous prenez le texte. Immédiatement après, les mêmes rats disent Bar Rabbi, Bechol la Torah Kula, Bechol la Shon Neemra. Voilà l'objection de la Gemara. Alors je vais paraphraser avant de traduire. Si, et j'admets que Rabbi tient en particulier à ce que les versets du Kriyat Shema soient en la Shon HaKodesh, alors ça voudrait dire pour lui que tout le reste de la Torah peut être Bechol Lachon. Oui, et je traduis, les mêmes rats, cela voudrait-il dire, des savants Rabbi, que Rabbi a pensé, Bechol la Torah Kula, que toute la Torah, sous-entendu sauf le Kriyat Shema, Bechol Lachon Neemra, sera et donnée à être dite en toute langue. Oui, et implication paradoxale. Pourquoi la Gemara est menée à dire cela? Elle va l'expliquer, mais essayez de trouver par lui-même. Comment a raisonné Rabbi? Il y a Verayou, Advarim Aele. Et il en conclut Verayou en hébreu, en Lachon HaKodesh. Tout de suite, la Gemara lui dit, alors tu penses que tout le reste n'est pas en Lachon HaKodesh? Alors, où est la force du raisonnement? Raisonnez. Transformez-vous en tant que vous et raisonnez.
Verayou, c'est pas l'ordre, c'est pas le... Yudkibarki est un ordre...
Très bien. Mais ça veut dire que ça se réfère à la Ravaya. Hein?
Oui.
Ces paroles, qui sont lettres, doivent être comme elles sont. Hein? Ça, on a appris. Maintenant, et donc, en Lachon HaKodesh. Très bien. Maintenant, la Gemara pose la question suivante. Si tu me dis, et tu viens de dire, que ce texte du Kriyat Shema doit être en Lachon HaKodesh, ça voudrait dire donc pour toi que tout le reste de la Torah, c'est en Kol Lachon? Okay. Vous voyez que la Gemara va subrepticement introduire la position des Chachamim dans Rabbi et la position de Rabbi dans les Chachamim, avec un humour extrêmement profond d'ailleurs. Mais ce que je demande, c'est le raisonnement de la Gemara. Comment a-t-on entendu ça dans les paroles de Rabbi? Que ça, cette implication, que ça veut dire que le reste de la Torah sera en tout temps. Il y a un mot du verset. Quel mot? Très bien. Elle est. C'est clair. C'est le pshat. C'est-à-dire, parce que voilà comment on a entendu Rabbi. Vehayou advarim aele. Vehayou seront comme elles sont, ces paroles-là. Donc, à l'exclusion des autres, du reste de la Torah, sauf le Kriyat Shema. C'est clair? Vous avez compris le mashma? Le mashma, c'est-à-dire le raisonnement. Alors maintenant, essayons de comprendre la portée de cet objet. Ken?
Oui, mais Rabbi, c'est celui qui a signé la Mishnah, et la Mishnah, elle ne parle pas de Kriyat Shema. C'est Rashi qui parle de
Kriyat Shema.
Quand on a commencé par Koré Batorah.
Ah, sur cette Mishnah-là.
Ouais.
Oui. Et alors, explique plus.
Alors, donc, pour lui, il n'y a pas de restriction, en réalité. C'est dans la discussion, la négative entre les rabbins, entre la Gemara et les rabbins qui étaient antérieurs.
Bon, alors, je vais préciser où il avait l'erreur. Il faut prendre la Braïta. Comment commence la Braïta? Tanou Ramana. Kriyat Shema, Kirtava, Divrei Rabbi. Rabbi parle bien de Kriyat Shema. À partir du moment où, comme Rashi nous l'a dit, nous appliquons cette Mishnah au Kriyat Shema, là on s'y traduit sur le Kriyat Shema. C'est clair? Mais ta question reste quand même. Sur un argument que j'ai évoqué hier. Je ne sais pas si tu étais là. Le mot Devarim du verset, Vayu Devarim Haele, porte premièrement sur le Kretschmar. Et ces paroles que je t'enseigne aujourd'hui. Mais ce aujourd'hui est important. Parce que ce jour-là, Moïse a dit toute la Torah. Vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle le Midrash va utiliser ce Hayom aujourd'hui pour un autre enseignement. Lequel ? Qui le connaît ? Hayom, la Rasotam, ou le Machar, le Kabel Tcharam. Vous vérifierez sur les commentaires sur le mot de Hayom. Et je traduis. Le verset dit ceci, et ces paroles que je te prescris aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Premièrement, l'enseignement général, considère-les comme si tu les entends la première fois aujourd'hui, chaque fois. Qu'elles soient nouvelles aujourd'hui, tous les jours, comme aujourd'hui. C'est clair ? Bon. Et effectivement, c'est le problème du rite, en général, qui doit être fait chaque jour. Chaque jour, la Torah est reçue de façon nouvelle, chaque jour, la prière est dite de façon nouvelle. C'est clair. Vous voyez l'importance de la vie du temps dans la tradition juive. Et mais l'enseignement que je cite, c'est que je te prescris aujourd'hui pour les faire. Ne t'attends pas à recevoir le salaire aujourd'hui. Le salaire, c'est pour demain. La dialectique de Olamazé, Olamama. Vahai Bahem, pour ce qui est derrière. Vahai Bahem, revoyez sur Rashi. Rashi connaissait la Gemara qu'on a citée. Mais il a tenu à nous montrer d'abord le pshat du verset. Ushmartem et chokotai ve tizotai asher ya'aseh ha'adam v'chay ba'em. V'chay ba'em de chayeh olam haba. Vous rappelez de ça. Ce qui fonde d'ailleurs la notion du kibushashem dans sa définition fondamentale, ceux dont on a dit qu'ils sont morts pour le kibushashem, ça veut dire qu'ils ont chayeh olam haba. C'est clair. Tu vois pourquoi ta question reste, hein? Parce que Devarim, ça va pour la vie de toute la Torah, et c'est un peu ce que sous-entend l'objection de la Gemara. Et je paraphrase un peu la Gemara ici. Alors, d'après ce que tu me dis, toi, Rabbi, ça voudrait dire que pour toi, le reste de la Torah, c'est encore la chose? Paradoxe, hein? Nous savons bien que tu entends que c'est aussi de la chambre à côté. Hein? Alors, nous allons voir comment il va y avoir une dialectique extraordinairement spécifique de la pensée talmudique, de globalité de la pensée. Alors, suivons le texte. Je traduis en suivant une fois, et on reviendra sur chaque proposition si c'est nécessaire. Les mêmes rats des Sabah Rabbi, je vous mets des voyelles un peu différentes que vous avez parfois, parce que vous savez, les voyelles qui ont été mises, c'est selon une chita de lecture, lituanienne d'ailleurs, de Rachtenblatt, mais dans d'autres chitot, à Bagdad, à Tlemcen ou à Kérouan, on voyait les, comment dire,
on vocalisait,
pas forcément exactement de la même manière, parfois même ça va plus loin, là où il y a un point d'interrogation, parfois ça peut être au contraire un point d'exclamation, là où il y a une question, au contraire c'est une affirmation, c'est un texte qui a été transmis comme la Torah, que les lettres. Et d'ailleurs, je me souviens encore avoir fait partie d'un temps au Talmud Torah où on cantillait, on chantait le texte comme on chante la Torah pour savoir quelle était l'intonation. Vous comprenez, il suffit de changer l'intonation pour que le sens change. Vous avez compris ? Bon, vous avez cité une fois un cas de ce genre, peut-être. Enfin, presque à chaque Gemara, nous avons un problème d'avoir de savoir comment lire. Et faites bien attention à cela, que ça ne s'improvise pas. Ou bien on a reçu une tradition de lecture, ou bien on ne sait pas. Vous comprenez, là encore, on retrouve la différence de Sadducéen et Pharisien. Bien. Alors, les mêmes rats des savants, mais ici le sens revient même. Les savants, Rabbi Isbo, en araméen, ça veut dire Svara, penser, raisonner. Okay. Qu'est-ce qu'il connaît encore un peu l'arabe? Les Asbir, c'est en hébreu. Alors que l'isbor en araméen, c'est raisonner. En arabe, qu'est-ce que ça veut dire, svor? La patience. C'est très exactement le sémantique espagnol de espérance qui veut dire attendre en espérant. Svor. Mitzvur, c'est un tzadé. C'est un samach.
Oui.
Ah, mais c'est quand même deux racines différentes. C'est deux racines différentes. Mitzvur, bar, be mitzraim, par exemple. Mais c'est la patience. Ça va mener à la notion de forteresse. Ce serait la patience de l'état-major.
Okay. Okay.
En arabe aussi, c'est le tzad, pas le
tzad. C'est pas un signe. Mais en arabe, c'est un signe. Et en hébreu aussi. D'ailleurs, l'utilisation hébraïque de ce terme vient de l'araméen. C'est pas l'hébreu biblique. Il y aurait là quelque chose à creuser. Et non, j'ai introduit cette notion de patience parce que c'est la notion du discours. Le raisonnement, c'est l'ordre des propositions. Bien, alors, dirait-on à partir de là que Rabbi a pensé chez Kol HaTorah Kula, que toute la Torah, Bechol Lashon Ne'emra, aurait été dite en toute langue, Veis al Kadartar Bilshon HaKodesh Ne'emra. Parce que si tu penses, si tu conclus que selon lui, tout le reste de la Torah était dit en Lashon HaKodesh, Vehayu, Tichtav Rahamana Lamali, ce Vehayu, qu'est-ce que j'en ferai? Ce Vehayu selon Rabbi, que c'est Vehayu Advarim Haele. Réponse. Là, vous apprendrez le principe du raisonnement talmudique ici. Istarer, c'est nécessaire, ce Vehayu. Mishum Dirtiv Shma, parce qu'il est écrit Shma. Qui peut expliquer les autres? Ça a l'air difficile, mais c'est très simple. Je rappellerai le mot en français. Je viens d'entendre que, selon Rabbi, Vehayu, ça veut dire en Lashon HaKodesh. Mais Vehayu, c'est Vehayu Advarim Haele. Donc le reste, c'est Bechol Lashon. Oui? Non. En réalité, pas. Et alors, pourquoi ce Vehayu, restrictif, à cause du Shmar, dans le sens des Racham? C'est clair? Puisque Shmar, ça peut vouloir dire Bechol Lashon Shata Shomea, alors Rabbi a besoin de ce Vehayu. C'est clair? Zéou. Et ça veut dire, ça ne signifie pas que le Hadabarim Haele fait une différence de nature pour Rabbi entre la Parasha Shema et le reste de la Torah. Ça veut dire que la Torah a déjà prévu un argument pour Rabbi pour répondre à Chachamim quand ils diront Mais Hashma. Elle dirait oui, mais Vayu Hadabarim Haele. C'est clair? Et l'approfondissement serait de comprendre l'implication thématique des thèmes du raisonnement. Deuxième raisonnement. Maintenant, ce sera plus simple pour nous parce qu'il est sur le modèle du premier. Les mêmes Rav, les Sabrei, Rabbanan, et peut-être que nous allons dire que les Chachamim ont pensé de Chol HaTorah Kula Bilshon HaKodesh Ne'emra, que tout le reste de la Torah était en Lashon HaKodesh, puisqu'ils ont dit le Kriyat Shema en toute langue. Vous voyez, du coup. Imaginez cet étonnement. Les Chachamim ont pensé que la Torah est en Lashon HaKodesh. Hypothèse fantastique. Dans l'hypothèse de Rabbi, ça voudrait dire qu'on peut servir de la Torah dans n'importe quelle langue. Okay? Tu pourrais croire que Rabbi va te laisser penser ça. Okay? Inversement, regardez du coup, tu pourrais croire que les Rabbi vont penser que le reste de la Torah, vous voyez le caractère joli de l'hypothèse. On va permettre aux Juifs de lire Kriyat Shema en français à condition que le reste de la Torah est la lise dans la Shana Kodesh. Vous pouvez écrire l'hypothèse. Deis al kadartar becholachon, parce que si tu penses que pour eux, le reste de la Torah aussi, c'est moi qui ajoute aussi, et becholachon, en toute langue, Shema, dirta Abrahamana Lamali, ce mot de Shema,
Shema, Shimemaim,
Shema, becholachon, shata shomea, selon les Hachamim, qui porterait que sur le Kratma, Isterer, c'est nécessaire à cause Mishum, Dirti Veayu, à cause du Veayu selon Rabbi. Alors vous voyez comment il y a un phénomène de unification de la pensée, de complémentarité de la pensée. C'est-à-dire que cette éventualité d'un déploiement de la halakha, le niveau du Lashon HaKodesh, le niveau de Kol Lashon, est prévu par la Torah elle-même, dans cette dialectique entre Shema et Veraya. Et vous voyez en quoi il s'agit d'une Torah une, bien qu'il y ait polarité de la halakha, polarisation de la halakha, parce que le système de Rabbi enveloppe le système de Chachamim, et le système de Chachamim enveloppe le système de Rabbi. Il n'y a pas ici discussion de deux positions incompatibles. Il y a discussion de deux points de vue à l'intérieur d'une même Torah. Et la véritable question, comme toujours dans nos problèmes, c'est vrai, c'est en quel temps sommes-nous? Si nous sommes dans le temps de Rabbi, la halakha est comme Rabbi. Si nous sommes dans le temps de Chachamim, la halakha est comme les Chachamim. Est-ce que c'est clair? Mais c'est la même Torah. La même Torah qui dit Shema dans le sens de Chachamim, dit Be'ayu dans le sens de Rabbi. Donc, ce petit passage-là était extrêmement important du point de vue de l'essence même de la méthode Talmud. C'est en tout cas un des principes de la Machloké. C'est-à-dire, en quel temps sommes-nous? C'est peut-être le principe le plus dominant, puisque c'est aussi le cas de la généralité de la Machloké entre Beit Hillel et Beit Shammai. Vous avez cité le principe « Alacha ke Beit Hillel ba'olam hazeh, alacha ke Beit Shammai ba'olam haba ». Je me rappelle, je l'avais cité une fois, mais je ne résiste pas à l'envie de le citer, quand on était enfant au Talmud Torah, il y avait les anciennes de Marot, Beit Hillel, Beit Shammai, c'est en abrégé. Alors donc, c'était écrit comme ça. Beit Hillel, Omrim, Beit Shammai, Omrim. C'est-à-dire, Beit et Omrim, Betchin Omrim. Mais nous, on était tout gosses, et puis on avait fait une faute énorme de lecture. Des années après, j'ai compris que c'était pas une faute, c'était beaucoup plus grand que ça. On lisait Baruch Hu Omrim, Baruch Shem Omrim. La différence entre Betchin et Betchama, c'est Baruch Hu, Baruch Shem. Et ça, c'est ça. Je sais pas si vous comprenez qu'il y a un parallèle. C'est joli. Bien, vous voyez les petites fautes de petits enfants au Talmud Torah, où ça se trouve. Mais il y a d'autres principes. Ça, c'est le principe que la machloquette se comprend dans l'organisation de la question en quel temps sommes-nous? Et sauf ça, pour les grands problèmes historiques, c'est la question. Nous pouvons avoir dans n'importe quel sugya du Talmud hein, ce problème de l'apparente divergence des opinions qui mène à un engagement de comportement différent, mais en réalité, l'étude attentive montre que c'est le même sens du principe qu'avaient les uns et les autres, mais qu'il y a une marloquette, donc un débat sur en quel temps sommes-nous. Vous voyez que la Torah comme telle ne peut être comprise si elle est séparée, je le dirais dans une forme positive, ne peut être comprise que dans la mesure où elle est reliée à la Chokhmah de la Nevoua, c'est-à-dire à la Kabbalah. Je pense que c'est clair. Bon. Mais il peut y avoir d'autres principes qui rendent compte de cette catégorie de la Machloké. Et je vous en dirai un autre. C'est, bon, ça nous ouvre ici une parenthèse, mais ça vaut la peine. C'est, comment dire, l'équation personnelle de chaque Neshama d'Israël. Chaque personne en Israël, et au niveau des plus grands, ceux qui incarnent en un individu une personne totale, qu'on appelle les Yechidim, ceux qui incarnent leur Neshama jusqu'au niveau de la Yechida, c'est ce qu'on appelle les Yechidim. Comment on traduit en français Yechidim? Les uniques. Et en français, ça n'est pas suffisamment clair. Unique en son genre, si vous voulez. Eh bien, nous, tout un chacun, nous avons une étincelle de Neshama. Il faut nous mettre à une communauté entière pour être un quelqu'un. Mais il y a les Yechidim, ceux qui, à un seul individu, sont une personne. Eh bien, ils ont une Mida différente, c'est-à-dire le Shoresh du Shoresh, la racine de leur être, vient d'une Mida particulière de l'unité des valeurs. Et donc, il est normal que lorsqu'il y a un débat pour savoir comment appliquer la règle unique Alors, chacun dit, si la majorité des juifs est selon ma mida, alors voilà la halakha. Et l'autre dit, si la majorité des juifs est selon ma mida, voilà la halakha. Et puis quelqu'un se lève et dit, la halakha est comme toi, plutôt que comme toi. Qui se lève? C'est celui qui a la responsabilité politique de la communauté en ce temps-là. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, qui peut juger comment doit être la halakha les maasés? Comme qui? Comme Rabbi Eliezer, comme Rabbi Ishmael, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Meir. C'est celui qui a la responsabilité, encore une fois, employons les mêmes mots, sociopolitique de la communauté. Parce que, Elou Velou Dibre Elohim Chaim, l'opinion de chacun, c'est la vérité du Dieu vivant. Le Maharal explique pourquoi Dieu vivant se met au pluriel, Elohim Chaim, à ce propos. Il y a la vie est en pluriel. La vie est l'unité de ce pluriel. Chaim est au pluriel. Okay? Et non, Chaim c'est vraiment un pluriel dans ce sens-là. Et j'avance. Et ça se vous expliquera dans énormément de sous-biot. Pourquoi on a cité pas. Nous avons eu un exemple. Okay? Lorsqu'on a dit la halakha comme Rabbi Meir, vous l'avez vers la fin de la page 3. Ok, ce qu'on a vu hier. Ce que je voulais citer, c'est ça. C'est que celui qui a une responsabilité à ce niveau est investi d'un Ruach HaKodesh particulier qui lui permet de pouvoir trancher à la halakha. Que les autres, dont les autres ne disent pas forcément, parce qu'ils sont au niveau de la vérité comme vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais celui qui a pour charge la réalité, alors a un, je cherche le mot en français,